Troisième partie, une épouse disparaît. Chapitre 10, un colloque et ce qui s'ensuivit. « Eh bien, Beresford, dit le général de division Sir Josiah Penn, médaillé militaire, chevalier de l'ordre de Saint-Michel et commandeur de celui du Bain, qui s'exprimait avec tout le poids convenant au flot de titres qui suivait son nom. « Eh bien, que pensez-vous de tout ce blabla ?» Tommy déduisit de cette question que le vieux Josh, comme on l'appelait irrévérencieusement derrière son dos, n'était pas impressionné par le résultat de la série de réunions auxquelles ils avaient pris part. « Piano, piano, pianissimo !» ronchonna Sir Josiah, poursuivant son idée. « Et beaucoup de bruit pour rien !» Si par hasard quelqu'un trouve quoi que ce soit de sensé à dire, on s'empresse aussitôt de pousser les hauts cris. Je ne sais vraiment pas pourquoi nous venons assister à ces machins-là, ou plutôt si, moi je le sais. Je sais pourquoi, parce que je n'ai rien de mieux à faire. Si je ne me rendais pas à ces bouffonneries, il faudrait que je reste chez moi. Et vous savez ce qui m'attend là-bas ? On me maltraite, Beresford. Je suis maltraité par ma gouvernante, maltraité par mon jardinier. C'est un vieil Écossais qui ne me permet même pas de toucher à mes propres pêches. Voilà pourquoi je viens ici faire l'important et me raconter à moi-même que je remplis une fonction de premier plan puisque j'assure la sécurité de ce pays. De bien grands mots. Mais vous êtes encore quasiment un gamin. Pourquoi venez-vous perdre votre temps ici ? Personne ne vous écoutera, même si vous dites quelque chose qui mérite d'être entendu. » Tommy secoua la tête, amusé à l'idée qu'en dépit de son âge, qu'il considérait comme avancé, il pouvait passer pour un gamin aux yeux de Sir Josiah Penn. Le général devait avoir largement plus de 80 ans et était à moitié sourd et bronchiteux, mais c'était tout sauf un imbécile. « Si vous n'étiez pas là, monsieur, « il ne se ferait absolument rien, » répliqua Tommy.
« J'aime à le croire, » dit le général. « Je suis un bouledogue édenté, mais je peux encore aboyer. Comment va Madame Tommy ? Il y a bien longtemps que je ne l'ai vue. »
Tommy répondit que Tuppence était en forme et encore active.
« Elle l'a toujours été. Elle me faisait penser parfois à une libellule, sans cesse courant après une idée de son cru et apparemment absurde jusqu'au moment où on s'apercevait qu'elle n'était pas absurde du tout. « Un vrai plaisir !» remarqua le général approbateur. « Je déteste ces femmes sérieuses et sur leur tour qu'on rencontre aujourd'hui, qui luttent toutes pour une cause, avec un C majuscule. Quant aux jeunes filles... » Il secoua la tête. « Elles ne sont plus qu'elles étaient de mon temps, belles comme le jour. Ah ! Leur robe de mousseline et les chapeaux cloches qu'elles portaient à l'époque. Vous vous en souvenez ?» « Non, vous étiez sans doute encore au jardin d'enfants. » Il fallait regarder sous le bord du chapeau pour apercevoir un petit bout de leur minois. « Aguichon, non ?» Et elle le savait. « Je me rappelle. Attendez, quelqu'un de votre famille, une tante, non ?»« Ada Fanshawe. » »«
Tante Ada ?»«
Le plus joli brin de fille que j'ai jamais vu. »
Tommy cacha sa surprise comme il put. Que sa tante ait jamais pu être considérée comme une jolie fille, voilà qui dépassait l'imagination. Le vieux Josh continuait tout excité.
« Oui, jolie comme un cœur, et gai avec ça, enjoué, provoquant à souhait. Ah, je me rappelle la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. J'étais un lieutenant en partance pour l'Inde. Nous avons pique-niqué au clair de lune, sur la plage, nous nous sommes promenés, et puis nous nous sommes assis sur un rocher pour contempler la mer. »
Tommy regardait avec une certaine stupeur le double menton de Sir Josiah Penn, son crâne chauve, ses sourcils broussailleux et son énorme bedaine. Et il pensait à Tante Ada, à sa moustache naissante, à son sourire maussade, à ses cheveux gris fer, à son regard malveillant. « Le temps, songea-t-il, ce que le temps fait de nous. » Il essaya de se représenter le jeune lieutenant et la jolie fille au clair de lune. En vain.
C'était follement romantique, soupira Sir Josiah Penn. Ah oui, c'était follement romantique. J'aurais voulu la demander en mariage ce soir-là, mais un lieutenant ne pouvait pas se marier. Pas avec la solde dont on nous gratifiait. Il aurait fallu attendre 5 ans avant de pouvoir convoler. Impossible de demander à une fille de patienter aussi longtemps. Enfin, vous savez comment ça se passe. Je suis parti pour l'Inde et je ne suis revenu en permission que beaucoup plus tard. Nous nous sommes écrits au début et puis la correspondance s'est relâchée, comme c'est presque toujours le cas. Je ne l'ai jamais revue. Et pourtant, vous savez, je ne l'ai jamais tout à fait oubliée. J'ai souvent pensé à elle. J'ai même failli lui envoyer un mot des années plus tard. J'avais entendu dire qu'elle vivait dans les environs de l'endroit où je séjournais alors. Je pensais lui demander l'autorisation de venir la voir et puis je me suis dit « Ne fais pas l'imbécile, elle a probablement beaucoup changé depuis. » J'ai entendu quelqu'un parler d'elle quelques années après. Il disait que c'était la femme la plus laide qu'il ait jamais vue. J'ai eu de la peine à le croire. Mais maintenant, je me dis que j'ai peut-être eu de la chance de ne pas la revoir. Qu'est-elle devenue? Elle vit toujours? Non, en fait, elle est morte. Il y a 2 ou 3 semaines, répondit Tommy. Vraiment, vraiment. Oui, elle devait bien avoir 75 ans, 76? Un petit peu plus même. Elle en avait 80, précisa Tommy. Imaginez-vous ça, la brune et joyeuse Ada. Où est-elle morte? Elle vivait dans une maison de retraite ou avec quelqu'un auprès d'elle? Elle ne s'est jamais mariée, n'est-ce pas? Non, déclara Tommy, elle ne s'est jamais mariée. Elle était dans une maison pour vieilles dames, très agréable, je dois l'avouer. La crête ensoleillée. Oui, j'en ai entendu parler, la crête ensoleillée. Une amie de ma sœur y a vécu, je crois, une certaine madame. Comment diable s'appelait-elle? Madame Carstairs, vous ne l'avez pas rencontrée? Non. On ne rencontrait jamais personne. Chacun se bornait à rendre visite à sa propre parente. J'imagine que ce n'est pas de tout repos. Je veux dire, on ne sait jamais de quoi leur parler. Tante Ada était particulièrement difficile, remarqua Tommy. C'était une espèce de mégère, vous savez.
Ça ne m'étonne pas,
répliqua le général en pouffant. Quand elle était jeune, c'était parfois une vraie diablesse. Il soupira.
C'est l'histoire, la vieillesse.
Une amie de ma sœur se faisait des idées folles. Elle se figurait qu'elle avait tué quelqu'un.
Seigneur, et c'était vrai?
Bah, je ne pense pas.
Personne, en tout cas, n'avait l'air de le croire.
Mais j'imagine, dit le général en réfléchissant, j'imagine que ce ne serait pas absolument impossible. Si vous racontez ça partout en riant, personne n'y attachera d'importance, n'est-ce pas? Ça passera pour un propos badin.
Et qui prétendait-elle avoir tué?
« Du diable si je le sais. Son mari, peut-être? Je ne sais ni qui il était, ni de quoi il avait l'air. Quand nous l'avons rencontrée, elle était déjà veuve. « Bon, ajouta-t-il en soupirant, désolé pour Ada, je n'ai rien vu dans les journaux, sinon j'aurais envoyé des fleurs ou quelque chose. Un bouquet de roses en bouton, par exemple. C'est ce que les jeunes filles portaient sur leur robe du soir. Un bouquet de boutons de roses sur l'épaule. C'était charmant. » Je me rappelle la couleur de la robe du soir d'Ada, une espèce de mauve hortensia, bleu mauve, avec des boutons de rose rose. Elle m'en a donné un une fois, il n'était pas naturel bien sûr, artificiel. Je l'ai gardé longtemps, des années. Je sais bien, dit-il en interceptant le coup d'œil de Tommy, je sais bien que cela vous fait rire, mais sachez-le mon garçon, quand on s'est vraiment vieux et gâteux comme moi, on redevient sentimental. « Bon, je ferais bien de filer et de retourner assister au dernier acte de ce spectacle ridicule. Mes amitiés à Madame T. »
Dans le train, le lendemain, se remémorant en souriant cette conversation, Tommy essaya de nouveau de se représenter sa redoutable tante et l'impétueux général de division dans leur âge tendre. « Il faut que je raconte ça à Tuppence, ça va la faire rire, » se dit Tommy. Je me demande ce qu'elle a fait en mon absence. Le fidèle Albert lui ouvrit la porte avec un large sourire de bienvenue. « Heureux de vous voir de retour, monsieur. »«
Heureux d'être de retour, » répliqua Tommy en lui abandonnant sa valise.
« Où est Madame Beresford ?»«
Pas encore rentrée, monsieur. »«
Tu veux dire qu'elle est partie ?»«
Depuis 3 ou 4 jours, mais elle sera là pour le dîner. Elle a téléphoné hier. » Partie pour où ? Je n'en sais rien, monsieur. Elle a pris la voiture, mais elle a aussi pris tout un tas de guides de chemin de fer. Elle peut se trouver, comme qui dirait, n'importe où.
Comme qui dirait, en effet, répéta Tommy avec conviction. À l'extrême nord de l'Écosse, comme au fin fond des Cornouailles. Et elle a probablement raté la correspondance à Petaouchnock au retour. Dieu bénisse les chemins de fer anglais.
Elle a appelé hier, c'est ça ?
A-t-elle dit d'où elle appelait ?
Elle n'a rien dit.
Quelle heure était-il ?
C'était le matin, avant le déjeuner. Elle a juste dit que tout allait bien. Elle ne savait pas au juste à quelle heure elle serait là, mais elle pensait être de retour bien avant le dîner et m'a demandé un poulet. Cela vous convient, monsieur ?
Oui, répondit Tommy en regardant sa montre, mais il va falloir qu'elle se dépêche maintenant.
Je vais faire attendre le poulet, dit Albert.
C'est ça, répliqua Tommy en souriant. Retiens-le par la queue.
Comment ça va, Albert ? Tout le monde va bien chez toi ?
Nous avons eu une alerte à la rougeole, mais ce n'était rien. D'après le médecin, ce n'est qu'une éruption due à une allergie aux fraises.
Bon, dit Tommy.
Il monta en sifflotant, alla se laver et se raser dans la salle de bain et passa dans la chambre à coucher. Il y régnait cette drôle d'atmosphère d'abandon que prennent les chambres à coucher quand leurs occupants sont absents. Elle paraissait froide, peu accueillante. Tout y était scrupuleusement net et propre. Tommy éprouva le sentiment qu'aurait pu avoir un chien fidèle. C'était comme si, se disait-il en regardant autour de lui, Tuppence n'avait jamais existé. Pas trace de poudre, pas de livre ouvert et abandonné, retourné.
« Monsieur ?» Albert venait d'apparaître sur le seuil.
« Eh bien,
je me fais du souci pour le poulet. »
« Au diable le poulet !» répliqua Tommy.
« Il a l'air de t'obnubiler, ce poulet. »
« C'est que je l'ai mis en pensant que, elle et vous, vous ne seriez pas là plus tard que 8 heures. Je veux dire, pas plus tard que 8 heures pour passer à table. »
« C'est ce que j'aurais pensé aussi, » dit Tommy en regardant sa montre.
« Seigneur Dieu, il est 9h25. »«
Oui, monsieur. » »«
Et le poulet, oh, très bien, sors-le du four et nous allons le manger, toi et moi. Ça lui apprendra, tu penses. »
« Rentrez bien avant le dîner, tu parles. »
« Bien sûr, il y a des gens qui dînent très tard, » remarqua Albert.
« J'ai été en Espagne une fois et, croyez-moi, vous ne pouvez pas obtenir un repas avant 10 heures, 10 heures du soir. Je vous demande un peu, des barbares !»«
Très bien, » répondit Tommy distraitement. « Au fait, tu n'as aucune idée de l'endroit où elle a pu aller. »
« Vous voulez dire la patronne ? Je n'en sais rien, monsieur, mais t'as vu qu'elle se promène au petit bonheur. »
Sa première idée, c'était d'aller partout en train, d'après ce que j'ai compris. Elle regardait tout le temps les indicateurs, les horaires et tout ça.
« Ma foi, à chacun ses amusements, » répliqua Tommy. « Il semble que le sien soit le voyage en chemin de fer. N'empêche, je me demande où elle est. Dans la salle d'attente pour dames de Petaouchnock, sans doute. »
« Elle savait que vous deviez rentrer aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur ?»«
Elle va arriver, c'est sûr. »
Tommy sentit qu'il lui était offert allégeance. Albert et lui étaient liés par la même désapprobation d'une Tuppence qui, à cause de son flirt avec les chemins de fer britanniques, ne rentrerait pas à la maison à temps pour fêter comme il convient le retour d'un mari.
Albert se retira pour aller arracher le poulet à l'horrible sort d'une crémation prochaine dans le four.
Tommy était sur le point de le suivre quand son regard tomba sur la cheminée. Il se dirigea lentement vers elle et contempla le tableau suspendu au mur. Bizarre, cette certitude qu'avait Tuppence d'avoir déjà vu cette maison. Pour sa part, il était certain de ne pas la connaître. Quoi qu'il en soit, c'était une maison comme tant d'autres. Il devait y en avoir des milliers du même genre. N'arrivant pas à la voir clairement, même sur la pointe des pieds, il décrocha le tableau et le mit sous la lampe. Une jolie maison bien tranquille, et le tableau était signé. Le nom commençait par un B, mais le reste était difficile à lire. Bosworth, Bouchier. Avec une loupe, peut-être réussirait-il à le déchiffrer. Du hall, un joyeux carillon de cloches de vache retentit. Albert avait été enchanté par cette cloche de vache suisse que Tommy et Tuppence avaient rapportée de Grindelwald.
Il en jouait en virtuose. Le dîner était servi, Tommy se rendit dans la salle à manger. Étrange quand même que Tuppence ne soit pas encore là. À supposer qu'elle ait été victime d'une crevaison, ce qui paraissait probable, elle aurait pu au moins téléphoner pour expliquer son retard. « Elle sait pourtant que je dois me faire du souci », se dit Tommy. Non, bien sûr qu'il s'en soit jamais fait beaucoup. Avec Tuppence, tout allait toujours comme sur des roulettes. Mais Albert vint contredire cet état d'esprit. « J'espère qu'elle n'a pas eu d'accident », remarqua-t-il, hochant tristement la tête, tout en présentant à Tommy un plat de choux. « Retire ça de ma vue. Je déteste le chou, tu le sais bien », protesta Tommy. « Pourquoi aurait-elle eu un accident ? Il n'est que 9h30. « La route aujourd'hui, c'est meurtrier », expliqua Albert. « Tout le monde peut avoir un accident. » Le téléphone sonna. « C'est elle, » dit Albert. Il déposa en hâte son plat de choux sur le buffet et sortit en courant. Tommy se leva et le suivit, abandonnant son poulet. Il allait dire « Je vais le prendre », mais Albert parlait déjà. « Oui, monsieur. Oui, monsieur Beresford est ici. Je vous le passe. C'est un certain docteur Murray pour vous, » ajouta-t-il en se tournant vers Tommy. « Docteur Murray ?» Tommy réfléchit un instant. Le nom lui était familier, mais il avait oublié de qui il s'agissait. Tuppence avait peut-être eu un accident. Aussitôt, avec un soupir de soulagement, il se souvint que le docteur Murray était celui qui soignait les vieilles dames de la crête ensoleillée. Il s'agissait sans doute de quelque chose en rapport avec l'enterrement de Tante Ada. En digne homme de son époque, Tommy supposa qu'il avait dû omettre de signer un formulaire ou quelque chose d'approchant. « Allô ? Beresford à l'appareil. »«
Ah, je suis content de vous entendre. Vous vous souvenez de moi, j'espère. J'ai soigné votre tante, Mademoiselle Fanshawe. » »«
Oui, bien sûr. Que puis-je pour vous ?»«
En fait, j'aimerais que nous ayons un petit entretien. Pourrions-nous convenir d'un rendez-vous en ville, un de ces jours ?»«
Bien sûr, sans problème, mais... S'agit-il d'un sujet que vous ne souhaitez pas aborder au téléphone ?»«
Je préférerais, en effet, ne pas le faire. Rien ne presse en vérité, mais je voudrais bavarder un peu avec vous. »
« Rien de cassé ?» demanda Tommy, sans comprendre pourquoi il posait cette question. « Pourquoi y aurait-il eu quelque chose de cassé ?»«
Pas vraiment. Je suis peut-être en train de faire une montagne d'un trou de souris, très probablement même. » Mais il s'est passé de drôles de choses à la crête ensoleillée.
Sans rapport avec Madame Lancaster, s'enquit Tommy.
Madame Lancaster ?
Répéta le médecin surpris.
Oh non, elle est partie il y a quelque temps déjà. Avant la mort de votre tante, d'ailleurs. Non, il s'agit de tout autre chose.
Je viens juste de rentrer de voyage. Je peux vous appeler demain matin pour que nous fixions un rendez-vous ?
Parfait. « Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Je serai à mon cabinet jusqu'à 10h. »«
Des nouvelles alarmantes ?» demanda Albert quand Tommy revint dans la salle à manger. « Pour l'amour du ciel, Albert cesse de jouer les oiseaux de mauvais augure, » lui intima Tommy irrité. « Non, bien sûr que non. »« Je pensais que peut-être la patronne, elle va très bien, » riposta Tommy. « Elle va toujours très bien. Elle est sans doute lancée sur une piste quelconque. Tu la connais. » Inutile de s'inquiéter. Débarrasse-moi ce poulet. Maintenant que tu l'as gardé au chaud dans le four, il est devenu immangeable. Apporte-moi un café et après ça, j'irai me coucher. Nous aurons sans doute une lettre demain. Elle aura été retardée, vous savez ce que c'est, la poste. Ou alors un télégramme, ou alors elle va téléphoner. Mais le lendemain, il n'y eut ni lettre, ni coup de téléphone, ni télégramme. Albert ouvrit la bouche de nombreuses fois, mais, après un coup d'œil à Tommy, la refermait aussitôt, jugeant avec raison que de sinistres prophéties de sa part ne seraient pas les bienvenues. Tommy finit par avoir pitié de lui. Il avala une dernière bouchée de son toast à la confiture, le fit descendre avec une gorgée de café et déclara « Ok, Albert, je vais le dire le premier. Où est-elle ? Que lui est-il arrivé et qu'allons-nous faire ? Vous adressez à la police, monsieur ? Je ne crois pas. Vois-tu ? Tommy s'interrompit. Si elle a eu un accident ? Elle a son permis de conduire sur elle et un tas de papiers d'identité.
Les hôpitaux se mettent toujours très rapidement en rapport avec les familles. Je ne veux rien précipiter. Elle, elle pourrait ne pas le souhaiter. Tu n'as pas idée, tu n'as absolument aucune idée de l'endroit où elle a pu aller. Elle n'a rien dit, un nom quelconque. Albert secoua la tête. Comment était-elle? Contente, excitée, malheureuse, inquiète? Albert répondit sans hésiter. Elle buvait du petit lait, elle rayonnait de joie.
Comme le chien de meute sur la piste, suggéra Tommy.
Exactement, monsieur. Vous savez comment elle est.
Quand elle part en chasse, oui, je sais.
Maintenant, je me demande.
Tommy s'arrêta pour réfléchir. Il s'était passé quelque chose et comme il venait de le dire à Albert, Tuppence s'était précipité comme un chien de chasse sur sa piste. Avant-hier, elle avait téléphoné pour annoncer qu'elle rentrait. Alors pourquoi n'était-elle pas rentrée?
En ce moment, se dit Tommy, elle est peut-être quelque part en train de débiter de tels mensonges qu'elle en a oublié tout le reste.
Si elle était vraiment sur une piste, elle n'aimerait pas du tout que Tommy court pleurer dans le giron de la police et y gémisse que sa femme avait disparu.
Il l'entendait d'ici. « Comment as-tu pu être assez stupide pour faire une chose pareille? Je suis assez grande pour m'occuper de moi-même. Tu devrais le savoir depuis le temps. »
Mais était-elle vraiment capable de s'occuper d'elle-même? Impossible de savoir jusqu'où l'imagination de Tuppence pouvait l'entraîner. Dans la gueule du loup, mais jusqu'à présent, rien n'indiquait que cette affaire présentait le moindre danger, sinon, comme déjà dit, dans l'imagination de Tuppence.
S'il se rendait à la police pour annoncer que sa femme n'était pas rentrée comme elle l'avait prévu, le policier plein de tact le regarderait en souriant intérieurement et, toujours avec tact, lui demanderait quels étaient les amis qu'elle fréquentait.
« Je vais la retrouver moi-même, déclara Tommy. Elle doit bien être quelque part. Mais où?
Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je n'en ai aucune idée.
Et quelle tête de linotte elle fait de n'en avoir rien dit quand elle a téléphoné.
Elle a peut-être été enlevée par un gang, suggéra Albert.
Oh, pas d'enfantillage, Albert. Tu as passé l'âge depuis longtemps.
Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur?
Je vais aller à Londres, répondit Tommy en regardant la pendule. Je vais d'abord déjeuner au club avec le docteur Murray qui m'a appelé hier soir et qui a quelque chose à me dire à propos des affaires de ma défunte tante. Et je tirerai peut-être de lui une indication utile.
Après tout, cette histoire a commencé à la crête ensoleillée.
Je vais aussi emporter avec moi le tableau qui se trouve au-dessus de la cheminée.
Vous voulez dire que vous allez le porter à Scotland Yard?
Non. Je vais le porter à Bond Street.